dessous de l'Infox. Adrien Delgrange.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Démêler le vrai du faux, comprendre la fabrique d'une fausse information. Bienvenue à tous dans les dessous de l'Infox.
RFI.
Avec trois sujets au sommaire cette semaine. Nous parlerons tout d'abord du sida avec un message clair. Aucun remède ne garantit à ce jour une guérison totale du VIH. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, des messages faisant la promotion d'une potion à base de plantes pullule, c'est ce qu'a repéré l'AFP Factuel. Au sommaire également, un Français sur cinq pense que l'élection présidentielle française a été truquée. Nous recevons la directrice générale de Kantar Public à l'origine de cette enquête. Laure Salvin est notre invitée. Et puis enfin, nous reviendrons sur la mort cette semaine en Ukraine du journaliste français Frédéric Leclerimov. La Russie fait passer le journaliste décédé pour un mercenaire. C'est ce que nous verrons avec Grégory Genevrier dans la chronique des Dessous de l'Infox.
Les Dessous de l'Infox sur RFI.
Nous sommes à présent avec Marin Lefebvre. Bonsoir Marin.
Bonsoir.
Journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse. Aujourd'hui Marin, vous avez décidé de revenir sur un mystérieux remède qui permettrait une guérison totale du sida à base d'une combinaison de plantes.
Oui, c'est une solution miracle que vendent plusieurs publications très virales sur Facebook au Bénin et en Côte d'Ivoire. Elles partagent toutes, pour illustrer cette affirmation, une photo d'un bidon rempli d'un liquide rougeâtre. Et sur l'étiquette qui est apposée, un cabinet de soins garantit un traitement définitif en un mois du VIH-Sida. On y lit aussi un numéro WhatsApp précédé de l'extension du Bénin, +229. Dans les commentaires, de très nombreux internautes se disent évidemment intéressés et demandent où trouver ce mystérieux médicament et bien sûr, combien il leur en coûtera.
Alors, s'agit-il, Marin, comme on pourrait le supposer, d'une arnaque ?
Tout à fait, car il n'existe à ce jour aucun remède contre le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine qui cause au dernier stade de l'infection, le sida. C'est ce qu'a rappelé à l'AFP le docteur Fodé Simaga, directeur des sciences, systèmes et services du programme des Nations Unies luttant contre la pandémie de VIH-Sida, ONU-Sida. Une information facilement vérifiable par ailleurs, puisque l'Organisation mondiale de la santé comme ONU-Sida l'écrivent noir sur blanc sur leur site respectif. Il n'existe pas non plus pour l'instant de vaccin permettant de se protéger de ce virus.
La lutte contre le VIH, le sida, a été quelque peu oubliée par le grand public depuis le début de la pandémie de Covid-19. Où en est-on aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, les traitements antirétroviraux permettent aux personnes séropositives de vivre longtemps et en bonne santé, s'ils sont pris tôt et de manière régulière, nous a précisé le docteur Fodé Simaga. Ces médicaments agissent contre l'infection par le VIH en bloquant la reproduction du virus dans l'organisme. Conséquence, les personnes vivant avec ce virus qui suivent un traitement efficace ne sont plus infectieuses. C'est ce qu'on appelle la charge virale indétectable. Côté chiffres, fin juin 2021, 28 millions de personnes séropositives suivaient une thérapie antirétrovirale à travers le monde. Et en 2020, au total, 37 millions de personnes vivaient avec le VIH. 680 000 sont décédées du sida cette même année.
Et que faut-il faire lorsque l'on ne connaît pas ou qu'on doute de son statut sérologique ?
Eh bien, se faire tester, selon les professionnels d'ONU-SIDA que nous avons interrogés.
There are many test kits which test blood. You prick your finger and then the blood will be drawn up into the test kit device and again you wait for the period of time and the test result will come. You get a stripe if it's positive. It's simple.
Comme l'explique cette vidéo, cela ne prend pas plus de 2 minutes et il existe même des autotests pour le faire soi-même, un peu comme le Covid-19. Et pour réduire la circulation du virus et éviter sa transmission, il est conseillé de se protéger lors des rapports sexuels, d'utiliser du matériel d'injection stérile ou encore de prendre un traitement antirétroviral lorsqu'on vit avec le VIH et qu'on attend un enfant.
Enfin, Marin Lefebvre, la circulation de ce genre de fausses informations que vous venez de décrire doit avoir des conséquences sur les personnes concernées.
Oui, malheureusement. Elle est même très préjudiciable à la santé mentale des personnes vivant avec le VIH, selon Fodé Simaga d'ONU-SIDA. Le risque, en fait, c'est que celles et ceux qui tombent sur cette infox entretiennent de faux espoirs au sujet d'un remède qui n'existe pas, particulièrement les personnes séronégatives. Nous avons contacté Cheikh Abou Laïko Traoré, qui est le directeur exécutif de l'association Kenedougou Solidarité Solidarité. C'est une association qui lutte contre le VIH-Sida dans le sud du Mali. Et il nous a expliqué que les guérisseurs reçoivent beaucoup plus de personnes au début de la maladie que les médecins. Et selon M. Traoré, lorsque ces guérisseurs sont eux-mêmes séropositifs, il arrive qu'ils disent à leurs clients « Eh bien, j'ai refusé le traitement et je parviens, avec ces plantes, à me traiter. » Ce qui conduit certains patients à abandonner ou à ne pas commencer le traitement antirétroviral. Mais depuis la création de cette association en 1998, selon M. Traoré, la situation s'est un peu améliorée, notamment grâce à un travail de communication des connaissances scientifiques et de prévention auprès des guérisseurs maliens. La désinformation en ligne reste cependant une épine majeure dans le pied de ces professionnels.
Merci Marin. Marin Lefebvre, journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse. À bientôt.
À bientôt.
Vérification faite.
Qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron vous aurez choisi pour diriger la France dans les 5 années qui viennent? C'est Emmanuel Macron qui a donc été reconduit.
Invité des dessous de l'Infox, Laure Salvin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de Kantar Public France. Kantar Public qui vient de faire paraître une étude sur les Français. Un Français sur 5 pense que l'élection présidentielle a été truquée. Tout d'abord, comment expliquez-vous ce chiffre ?
Alors, tout a commencé aux États-Unis avec les supporters de Trump qui ont lancé cette rumeur justement sur le trucage des élections. En France, pendant toute la campagne, et je pense que vous l'avez pas mal montré d'ailleurs dans vos différentes émissions, la campagne, elle a été traversée par la diffusion de nombreuses fake news. Beaucoup de fake news sur la population immigrée, sur le Covid, sur le vaccin également, mais aussi sur les candidats. Et on le voit, ces fake news, elles ont bien été repérées par les Français. Il y a plus de 60% des Français qui nous disent avoir vu au moins une fois par mois ce type de fausses informations, des informations qu'ils jugent, eux, trompeuses ou fausses. Donc on voit bien que les Français ont conscience de ce phénomène-là. Et finalement, ça brouille un petit peu les cartes, ça brouille un petit peu les esprits. Et les Français se demandent vraiment, et c'est pour ça qu'on a atteint ce score de 1 Français sur 5 pense que l'élection a peut-être été truquée, et au profit d'Emmanuel Macron, évidemment. Ce sont surtout des sympathisants d'extrême droite qui pensent ça. Hein. On a plus de 50% des sympathisants du Rassemblement National qui pensent effectivement que l'élection a pu être truquée. Mais aussi chez les jeunes. On voit chez les jeunes, les 18-24 ans, ils sont 38% à considérer que l'élection a peut-être été truqué. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez global dans la société et finalement qui se rattache à cette idée qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent et finalement, pourquoi pas une élection truquée. Après tout, c'est bien ce qu'on a vu dans la presse aussi américaine ces dernières années.
Est-ce à dire que la défiance des Français à l'égard du processus démocratique, en l'occurrence là, l'élection présidentielle et puis prochainement les élections législatives, est grandissante, cette défiance?
La défiance, elle est très forte. Elle n'a jamais été aussi forte aujourd'hui par rapport à il y a de nombreuses années. Cette défiance, elle s'exprime à plusieurs niveaux. Au niveau politique, effectivement, mais aussi au niveau médiatique. C'est-à-dire, aujourd'hui, un journal, un magazine, une radio, une télé qui s'exprime sur un sujet peut être mis en cause très facilement, ne serait-ce que par une information sur les réseaux sociaux. Toute parole, on a le sentiment qu'auprès des Français aujourd'hui, et d'ailleurs c'est assez généralisé dans le monde, toute parole peut être mise en question. La parole par exemple du Premier ministre, la parole d'un ministre également. Donc c'est tout l'ensemble du système, pas seulement démocratique, mais aussi de représentation, toute la sphère du débat public qui est finalement remise en question et qui peut souffrir de cette défiance de la part de la population.
Avez-vous observé une recrudescence justement des fausses informations liées à cette dernière campagne présidentielle ?
Alors, en effet, on a suivi, comme vous, cette campagne. On a remarqué un certain nombre de fake news. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a demandé aux Français s'ils les avaient repérés, ces fake news. Et en effet, on voit qu'il y a quasiment la moitié des Français qui nous disent avoir été exposés au moins à une de ces fake news. Alors ensuite, il y a la question de la crédibilité. Est-ce qu'on y croit ou pas? Et là, c'est beaucoup plus mitigé. La grande majorité de la population n'y croit pas et arrive bien finalement à repérer les fake news. En revanche, on a toujours une petite minorité. Et cette petite minorité, on la retrouve à nouveau chez les jeunes, chez les moins informés par la politique, sur l'actualité politique d'une manière générale, et puis chez les sympathisants d'extrême droite. Eux qui considèrent systématiquement que ces fake news sont plus crédibles que les autres, que le reste de la population française.
Quels sont les exemples les plus probants donc de fausses informations, d'infox qui ont été véhiculées pendant cette dernière campagne présidentielle en France ?
Alors, ce qui a particulièrement marqué les esprits et les Français, c'est par exemple les fake news sur le trucage de l'élection et notamment sur le vote électronique qui aurait pu être manipulé. Ça, c'est quelque chose qui a été particulièrement vu par, et repéré par, par les Français. Deuxième point aussi, c'est le soir de l'élection. Vous savez...
Du premier, deuxième tour ?
Du premier tour, le fameux faux affichage de France 2 sur le nombre de voix de Marine Le Pen. Ça aussi, c'est un élément qui a été particulièrement repéré par les Français.
Expliquez-nous juste en quelques mots.
Alors en quelques mots, effectivement, à un moment donné de la soirée, on a vu en nombre de voix, le nombre de voix de Marine Le Pen qui était plus important que celui d'Emmanuel Macron. Et en fait, la chaîne France Télévisions a expliqué que c'était un bug du système de reporting finalement des résultats. Ce système était directement connecté au ministère de l'Intérieur qui n'a pas diffusé de mauvaises informations. Mais c'est le système lui-même de transmission qui a bugué. Et finalement, il y a beaucoup, notamment de sympathisants du Rassemblement national, qui se sont emparés de ce bug pour dire que l'élection était truquée et que, effectivement, même le ministère de l'Intérieur reconnaissait qu'à un moment donné, le nombre de voix de Marine Le Pen était plus important que celui d'Emmanuel Macron.
Dans votre étude, Kantar Public, Laure Salvin, est-ce que tous les candidats, toutes les campagnes électorales des candidats français ont été concernés par des fake news ou alors ça concerne plutôt certains partis ?
Alors, d'une manière générale, les fake news, elles sont plutôt diffusées par les sympathisants, les militants des partis extrémistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc, ils s'attaquent prioritairement aux candidats plutôt centristes. Donc, finalement, ceux qui ont le plus, pâti de ces fake news, c'est surtout Emmanuel Macron. Et c'est plutôt, ou en tout cas, c'était plutôt, en provenance des sympathisants d'extrême droite que ces fake news ont été distillées.
Avez-vous observé des candidats qui ont eux-mêmes relayé des fausses informations ?
Personnellement, non. Je n'ai pas vu ce genre de choses, à part effectivement chez Éric Zemmour, qui Éric Zemmour lui-même, a relayé un certain nombre de fausses informations. Alors, je ne dirais pas que ce sont forcément des fausses informations, mais ça peut être des raccourcis, des synthèses de différentes informations qui, au final, modifie un petit peu quand même la réalité de la situation. Notamment, on l'a vu pour Éric Zemmour, sur le nombre d'immigrés et le nombre de jeunes immigrés aujourd'hui en France. Il a juxtaposé plusieurs informations qui ont pu ressembler finalement à des fake news.
D'après vous, ces infox ont-elles influencé la campagne électorale et donc, in fine, le résultat ?
Alors, c'est la question, effectivement, que tout le monde se pose. Ce qu'on a fait, nous, chez Kantar Public, c'est qu'on a essayé, de façon assez expérimentale, et c'est pour la première fois qu'on a fait ça en France, d'ailleurs, d'analyser deux échantillons miroirs, si vous voulez. On a pris deux échantillons représentatifs de la population française. Et puis, il y en a un qu'on a exposé à des fake news et l'autre non, pour savoir, justement, s'il y avait un impact sur les intentions de vote. Eh bien, ce qu'on remarque, c'est que l'échantillon, donc la mini-France exposée aux fake news, a plutôt tendance à voter davantage pour le candidat Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. On aurait pu se dire, tiens, finalement, des Français qui sont exposés à des fake news, les fake news d'ailleurs sont souvent très dramatisants, très anxiogènes, etc., pourraient du coup avoir un impact sur le vote plutôt en faveur du Rassemblement national, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que face à des informations qui peuvent être justement inquiétantes, dramatiques, etc., les Français préfèrent la raison, préfèrent un candidat plus centriste, moins extrémiste, et puis aussi préfèrent un candidat qui connaît la France, qui connaît le système, qui sait gérer des périodes de crise et qui peut effectivement, amener le pays à passer ces crises-là. Alors, je dirais, il y a un petit bémol quand même. Donc, ces fake news, on le voit, c'est le début de cette expérimentation qu'on va continuer, évidemment. On a le sentiment que pour le moment, effectivement, l'impact ou l'effet principal de ces fake news, c'est de renforcer le pouvoir en place, quelque part, à part auprès des populations les plus fragilisées, les plus jeunes et celles qui sont le plus éloignées de l'actualité politique notamment. Chez ces personnes-là, au contraire, c'est plutôt un impact en faveur du Rassemblement national qu'on voit s'exprimer dans cette expérimentation plutôt qu'en faveur d'Emmanuel Macron.
Merci Laure Salvin d'être passée par Radio France Internationale. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directrice générale de Kantar Public France. Au revoir et à bientôt.
Au revoir, merci.
Info Maison.
C'est la route la plus dangereuse d'Ukraine et la plus stratégique aussi. Elle permet d'atteindre Lysychansk et Severodonetsk, deux villes que les Russes souhaitent couper du monde.
Ici, les groupes de saboteurs et de renseignements peuvent pénétrer.
Un nouveau prénom, un nouveau nom se sont ajoutés cette semaine à la liste des journalistes morts sur un terrain de guerre en Ukraine. Frédéric Leclerc-Imoff est décédé en début de semaine, c'était ce lundi 30 mai, alors que ce jeune homme de 32 ans couvrait une opération d'évacuation de civils pour la chaîne de télévision française BFM TV dans le Donbass. Le véhicule humanitaire dans lequel il se trouvait a été touché par des éclats d'obus. Le parquet national antiterroriste français a ouvert une enquête pour crime de guerre. Grégory Genevrier, bonsoir.
Bonsoir Adrien, bonsoir à tous.
Côté russe, il désinforme, il s'attaque à la victime.
Oui, le parfait exemple de cette désinformation, c'est le traitement par l'agence de presse officielle TASS de la mort de Frédéric Leclerc-Imoff. Une demi-heure après avoir relaté de façon factuelle la confirmation de sa mort par Emmanuel Macron, l'agence russe commence à faire circuler l'information selon laquelle il pourrait s'agir non pas d'un journaliste, mais d'un mercenaire. Dans sa dépêche du 30 mai, TASS va jusqu'à écrire qu'il était peu probable qu'il soit journaliste et l'accuse d'avoir tenté de livrer des munitions aux soldats ukrainiens.
Alors qu'en réalité, il n'y a aucun doute permis sur l'activité de Frédéric Leclerc-Imoff.
Non, aucun, puisque Frédéric Leclerc-Imoff était bien un journaliste reconnu par la profession. Il était diplômé de l'école de journalisme de Bordeaux et en possession de la carte d'identité des journalistes professionnels depuis 2015. On peut d'ailleurs toujours voir son travail en ligne. Au moment de sa mort, il était en tournage en Ukraine en équipe avec d'autres journalistes, dont une Ukrainienne, Oksana Loyta. Elle a témoigné sur la façon dont ils ont monté cette mission qui les a conduits à embarquer dans un véhicule siglé aide humanitaire, ce que confirment les photos diffusées depuis. Il n'y a donc aucune preuve tangible attestant que Frédéric Leclerc-Imoff ait eu d'autres activités que la couverture de l'actualité. Ce sont des accusations fallacieuses et gratuites.
Alors sur quels éléments se base TASS, l'agence de presse russe, pour émettre cet infox du mercenaire étranger?
Eh bien, l'agence de presse s'appuie sur les propos d'Andrei Marochko, un membre des forces armées de la République populaire de Lugansk, côté pro-russe donc. C'est lui qui qualifie le journaliste français de mercenaire et affirme, je cite, qu'il était un complice de l'Ukraine et des forces radicales d'extrême droite. L'autre argument avancé par TASS pour semer le doute, c'est que Frédéric Leclerc-Imoff était accrédité par l'armée ukrainienne au moment des faits, avec photo de son accréditation à l'appui. Alors, c'est vrai, mais cela ne prouve absolument rien, puisque tous les journalistes présents en Ukraine doivent être accrédités, soit par les forces armées ukrainiennes côté ukrainien, soit par les forces armées russes de l'autre côté du front. C'est comme ça sur tous les terrains de guerre.
Enfin, à qui, Grégory, s'adresse cette tentative de désinformation?
Alors, cette info n'est pas relayée côté français, en tout cas presque pas, où il n'y a aucun doute en France sur ce que faisait ce journaliste en Ukraine. À l'inverse, elle a été reprise par de nombreux médias russes et se destine plutôt aux russophones, notamment aux habitants du Donbass. L'objectif, c'est de faire passer la mort du journaliste non pas pour un crime de guerre, mais pour une manipulation visant, je cite, à agiter la communauté internationale. Pour Maxime Audinet, chercheur à l'IRSEM, spécialiste de l'influence russe, la stratégie du Kremlin, illustrée par les dépêches de TASS, c'est de désorienter le public en diluant un peu de vérité factuelle avec des contenus trompeurs. Ce que l'on remarque au final, c'est que pour une fois dans sa pratique de désinformation, la Russie n'est pas dans le déni du bombardement. Ici, sa ligne de défense, c'est d'abord de s'en prendre à la réputation de la victime.
Grégory Genevrier, avec la participation de Sophie Malibaud pour la chronique des Dessous de l'Infox. Merci à tous les deux. Ainsi se referme pour cette semaine l'émission Les Dessous de l'Infox, émission à retrouver et à partager grâce à nos applications et à notre site internet rfi.fr. Merci à Sigrid Azerwal, Florence Ponce, Arnold Assewa qui m'ont aidé à préparer cette émission. Mise en onde signée cette semaine Hélène Dutruc-Rosset, merci à elle. Quant à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau numéro des Dessous de l'Infox.